Décryptage. Marion Kazanov.
Après la surprise du report de la présidentielle au Sénégal, les électeurs se rendront aux urnes un mois après la date prévue. 7,3 millions de personnes voteront ce dimanche pour élire un nouveau président. Les Sénégalais espèrent ainsi tourner la page d'une crise institutionnelle qui a secoué le pays ces dernières semaines. Macky Sall, lui, quittera ses fonctions à l'issue du processus électoral après 12 ans au pouvoir. Il avait fait de l'émergence le grand défi de son mandat, lançant notamment de grands projets d'infrastructure. Mais le chemin est encore long. Le pays traverse des difficultés économiques avec aussi de vives tensions sociétales. Plusieurs ONG dénoncent notamment une détérioration de la démocratie sénégalaise ces 12 dernières années. Alors quel bilan pour Macky Sall ? On en discute ce soir dans Décryptage. Et mon invité est Étienne Smith. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Bordeaux, membre du laboratoire LAME, les Afriques dans le monde. Merci à nos confrères d'ailleurs de France Bleu qui vous accueillent dans leur studio à Bordeaux. Je voulais pour commencer qu'on écoute ce témoignage d'une électrice rencontrée par RFI.
La vie est chère. Même si les produits sont disponibles, on n'a pas les moyens pour les acheter. Les enfants ne travaillent pas, pourtant ils ont obtenu leur diplôme, mais ils n'ont pas pu trouver d'emploi. La scolarité est chère et si tu ne payes pas la scolarité, tu n'auras pas une éducation de qualité. On paye les frais de scolarité de nos enfants. La santé aussi coûte cher. Nous attendons du prochain président qu'il nous aide, c'est-à-dire qu'il puisse diminuer le coût de la vie, qu'il puisse voir comment réduire les charges des familles et qu'il trouve des emplois pour la jeunesse. Nous comptons beaucoup sur le futur président.
Voilà, la vie est de plus en plus chère, nous dit cette Sénégalaise. Pour elle, comme pour beaucoup d'électeurs, c'est donc le coût de la vie la priorité dans cette élection. Étienne Smith, pour donner quelques chiffres, l'inflation atteint les 5,9% aujourd'hui. Le chômage frôlait les 20% l'été dernier. C'est ça que vont surtout retenir les Sénégalais du mandat de Macky Sall ?
Alors effectivement, le coût de la vie est un des enjeux importants pour les électeurs. Et depuis la crise du Covid en 2021, vraiment cet enjeu est devenu encore plus important. La crise du Covid a vraiment mis le pays à genoux avec ce coût de la vie qui a augmenté. Mais ce n'est pas l'unique souvenir que les électeurs, bien sûr, auront du candidat de Macky Sall, puisque cette crise est arrivée au milieu de deuxième mandat. Mais il y a aussi le premier mandat à mettre à l'actif du président Sall, à l'actif ou au passif, selon les préférences des électeurs. Mais donc la question de son bilan économique ne se résume pas à la question de la cherté de la vie, même si, bien sûr, elle est effectivement cruciale pour les électeurs. Il y a d'autres enjeux, peut-être économiques, qui vont être associés au mandat de Macky Sall. Premièrement, peut-être la question des infrastructures, ou en tout cas, sur cet aspect-là, le président a proposé et mis en place une politique volontariste d'infrastructures, alors qu'il y aurait un certain coût. Mais en termes d'infrastructures de transport, en termes d'infrastructures universitaires, etc., il y a eu quand même des choses qui ont été faites, pendant notamment le premier mandat.
Et quel était l'objectif justement en développant ces infrastructures ? Parce que visiblement, c'est tous ces grands projets, par exemple de lancer un TER, des bus électriques, développer une ville flambant neuve près de Dakar, Diamniadio, ça n'a pas créé d'emplois visiblement.
Alors, ces infrastructures, l'idée, c'est d'un impact à long terme. La question, effectivement, c'est qu'à court terme, les infrastructures, ça ne se mange pas, entre guillemets, ne rapportent pas, dans le quotidien de la vie des gens, ça ne se voit pas forcément, les impacts, mais les impacts peuvent être la transformation de l'économie à long terme. Mais la vraie question, peut-être, derrière les infrastructures, est celle de leur coût. À quel prix, au fond, ces grandes infrastructures, notamment de transport ? Et la question du coût, c'est la question du financement de ces infrastructures. Donc, pour financer ce plan Sénégal émergent, qui a été le maître mot de la stratégie économique du président Sall, ce plan Sénégal émergent a été financé par des financements étrangers en grande partie. Et donc le taux d'endettement du Sénégal n'a pas cessé d'augmenter depuis le dernier allègement de la dette qui date de 2004 et atteint désormais 75% du PIB. Donc il y a quand même une trajectoire d'endettement inquiétante entre guillemets pour le pays qui fait qu'à terme des politiques d'austérité ne sont pas à exclure. Et donc pour les électeurs, effectivement, ça peut être un sujet de préoccupation que ces politiques, ce tour de vis entre guillemets austéritaire qui pointe peut-être à l'horizon et qui du coup aura un impact forcément sur le coût de la vie aussi. Donc les infrastructures ont eu un coût et c'est ce coût-là qui peut-être va être porté aussi dans le quotidien des Sénégalais.
Et pourtant la qualité de vie des Sénégalais c'était la priorité de Macky Sall. Donc il y a quand même un décalage entre les attentes des électeurs et ce que lui met en avant, son mandat un peu de bâtisseur.
Oui, alors il y a toujours un décalage comme ça, mais ça, ce n'est pas propre à ce président. C'est déjà à l'époque du président Abdoulaye Wade qui avait un slogan électoral qui disait que ses réalisations se voyaient. Il y avait toujours l'accent mis sur ce qui est visible en termes d'un transport, aéroport, etc. Et effectivement, ça ne répond pas à la demande sociale qui est une demande de meilleures conditions de vie, notamment pour sa jeunesse, avec une démographie importante et donc un renouvellement de la population important, et une jeunesse qui, même si elle a des diplômes, parce qu'il y a une multiplication d'universités, n'a pas toujours de débouchés derrière. Et un des vrais enjeux, peut-être, de ce qui a manqué pendant ces deux mandats, c'est une véritable industrialisation. Au fond, il y a eu une politique d'infrastructure, mais il n'y a pas eu d'industrialisation vraiment du Sénégal. Le pays reste un pays exportateur de matières premières, principalement. Et donc la production industrielle est très, très modeste, finalement, dans l'économie du Sénégal.
Et alors justement, il y a quand même un autre chantier très important entamé par le président, c'est l'exploitation donc au Sénégal de gaz et de pétrole, qui a été pour l'instant retardée normalement à septembre 2024. Quelle retombée en attendre ?
Alors le pays attend beaucoup de l'exploitation du gaz et du pétrole, prévu pour la fin 2024. Mais il faut rappeler que durant les premières années, la majorité des revenus ira d'abord aux entreprises étrangères pour le recouvrement des coûts d'investissement. Donc la part que toucheront les Sénégalais sera au début en tout cas réduite et elle, bien sûr, sera croissante au fur et à mesure. Alors le gouvernement entend utiliser ce tournant pétro-gazier pour en faire un tremplin vers l'électrification notamment et favoriser une forme d'industrialisation. Mais ce n'est pas du tout certain. Tout dépend de comment cette rente va être gérée, tout simplement. Et donc, il y aura des vrais enjeux là de transparence, etc., sur cette question de la gestion de la rente pétrolière. Mais de toute façon, ça ne va pas être un bouleversement majeur des conditions de vie des Sénégalais que cette exploitation pétro-gazière.
Alors, vous avez évoqué l'électrification. Est-ce que c'est un succès sur ce côté-là de la qualité de vie que défendait Macky Sall? Est-ce qu'il a notamment beaucoup développé l'électrification et d'autres choses? Quel succès on peut citer sur ce côté-là?
Alors, sur l'électrification, c'est plutôt encore à venir. Alors, la question de l'énergie a quand même été un peu réglée, puisqu'il y avait des vrais enjeux à la fin du dernier mandat d'Abdoulaye Wade. Il y avait notamment beaucoup de coupures d'électricité, des délestages, et ça avait participé à la crispation du climat social et politique dans les années 2010-2011. Et ça, durant le premier mandat de Macky Sall, des efforts conséquents ont été faits. Donc, cette question de la production électrique a été en partie seulement réglée. La question, c'est plutôt pour l'avenir. Comment mettre l'exploitation du pétrole et du gaz au service d'une énergie peu cher au Sénégal. Et ça, cette question n'est pas encore réglée, l'avenir le dira.
Et pour donner d'ailleurs quelques chiffres en zone rurale, sous la présidence de Macky Sall, l'électrification est passée de 24% en 2012 à 55%. Elle monte à 90% en ville, notamment grâce à des productions, un triplement de la production en centrale électrique. Autre sujet, Étienne Smith, une conséquence de ce taux de chômage que j'évoquais, important notamment chez les jeunes, il y a eu beaucoup de départs vers l'Europe, des Sénégalais qui partent à bord de pirogues pour rejoindre les Canaries. Cette incapacité de Macky Sall, de la présidence, à enrayer ses départs, est-ce que c'est un point noir du bilan de Macky Sall ?
Alors oui et non, parce qu'en fait, ce que montre la littérature sur la migration et développement, c'est que plus un pays se développe et plus les incitations finalement au départ, à la migration, sont importantes. Donc en fait, reprocher à un gouvernement que les départs sont de plus en plus nombreux, alors que par ailleurs, il y a une stratégie de développement économique, c'est un peu contradictoire, parce que c'est souvent ce développement économique, contrairement à ce qu'on dit, qui va donner des ressources ou permettre à des départs plus nombreux. Donc, en tout cas, la littérature sur ces questions-là est assez mitigée. Et donc, c'est assez compliqué de tracer une causalité entre action politique, action publique et accroissement ou pas des flux migratoires. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la crise politique, la crise du Covid d'une part, et ensuite la crise politique à partir de 2021, malgré tout, a créé un climat qui a laissé penser une partie de la jeunesse qui n'avait plus d'espoir de transformation politique au sein du pays et que du coup, le départ était une option de plus en plus urgente pour de nombreux. Donc il y a une forme d'absence d'espoir qui est dit par beaucoup de reportages de vos confrères journalistes au sein de la jeunesse sénégalaise. On constate effectivement que l'horizon, y compris politique, semblait bouché et du coup, incité aussi peut-être à plus de départs.
Donc il faudrait développer plutôt quoi ? Est-ce que c'est dans la formation, dans l'éducation qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là pour faire rester les jeunes sénégalais ?
Alors l'éducation, il y a malgré tout beaucoup de diplômés au Sénégal et des diplômés chômeurs. Donc la question ne sera pas juste faire plus de diplômés, mais plutôt trouver des débouchés économiques pour les chômeurs et juste pour cette jeunesse. Et là, c'est une stratégie évidemment d'industrialisation, de diversification de l'économie qui pourra répondre à ces problèmes.
Alors la présidence de Macky Sall est aussi assombrie par des dizaines de morts lors de manifestations, notamment lors de l'annonce du report de la présidentielle, où le président a été accusé notamment de dérive autoritaire. Lui veut qu'on retienne qu'il a été un président bâtisseur, je le disais. Est-ce qu'on se souviendra plutôt donc de cette ombre au tableau, Étienne Smith, de cette sortie ratée ?
Alors tout dépend de quelle échelle de temps on parle, puisque les bilans s'apprécient aussi avec une forme de recul ou pas, et le jugement qu'on peut faire maintenant est le jugement qui pourra être fait dans 2 ou 3 ans, quand tous les détails de cette histoire, de cette séquence un peu particulière qu'on a vécue ces 3 derniers mois, quand les détails de cette histoire pourront être connus, peut-être que le jugement sera différent. Mais dans l'état actuel des choses, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan simplement institutionnel et électoral, le bilan est malgré tout assez sombre, puisque au fond, pendant les 2 derniers mandats, donc les 2 mandats du président Sall, il y a eu une difficulté à organiser des élections tout à fait ordinaires, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2019 qui avait été tronquée avec 2 candidats majeurs de l'opposition qui avaient été interdits de participer. Cette élection-ci qui s'annonçait plutôt bien puisqu'il n'y avait pas de candidat sortant qui imposait sa candidature. Tout était bien parti, tout avait bien commencé, entre guillemets, et patatras, en janvier, la séquence qu'on a connue. Et donc encore une élection un peu bizarre, puisqu'avec une campagne raccourcie, etc. Donc le bilan en termes de capacité à organiser des élections, qui était une marque de fabrique du Sénégal, qui avait cette capacité depuis les années 92, et le consensus sur le nouveau code électoral, à organiser des élections relativement consensuelles, même si celle de 93 avait posé problème. En tout cas, depuis 2000, il y a quand même un cycle routinier d'élections au Sénégal. Et là, on a un peu connu, pendant le dernier mandat, des questions, ce qui a amené les gens à dire que finalement, la question électorale n'était pas aussi réglée qu'on le pensait au Sénégal, puisqu'il y a encore des couacs dans cette organisation d'élections.
Et alors justement, après ces 12 ans au pouvoir, est-ce que la démocratie au Sénégal s'en sort-elle plutôt renforcée ou fragilisée ?
Là, ce qu'on constate, la plupart des observateurs font le constat d'une forme de continuité avec les régimes politiques précédents, et au fond, un cycle qu'on peut appeler un cycle sangorien ou un cycle de l'État... de l'État PS, qui était l'État parti hégémonique de toutes les décennies depuis l'indépendance, où il y a quand même des réflexes hégémoniques du président de la République. À chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République, malgré les alternances en 2000 et 2012, finalement, les pratiques au pouvoir restent les mêmes. Une forme de concentration du pouvoir, de pouvoir personnel, d'hyper-présidentialisme, qui, quelque part, produit de l'instabilité institutionnelle, puisque c'est ce pouvoir exécutif qui a beaucoup de trop de pouvoir et qui, quelque part, peut affaiblir les autres institutions. Et ça se traduit dans la pratique, concrètement, par le fait qu'il n'y a pas de distinction souvent entre le parti et l'État, que la haute fonction publique est extrêmement politisée, que le président de la République reste secrétaire général du parti. Et donc, on a parfois, en tant que citoyen sénégalais, du mal à faire la part entre ce qui relève de l'État et son fonctionnement et ce qui relève du parti dominant, etc. Et il y a la question, bien sûr, de l'état de droit, des libertés. Et là, il y a, sous le second mandat, en tout cas, une forme de dégringolade dans les classements internationaux en termes de liberté de la presse, en termes de droit de manifester, etc. Où là, effectivement, le Sénégal n'a pas seulement été dans une continuité, mais dans une forme peut-être de régression par rapport à ce qui avait été la norme depuis les années 2000.
Et pour d'autres, au contraire, Macky Sall a un peu mis l'accent un peu plus sur la lutte contre la corruption, contrairement à son prédécesseur Abdoulaye Wade, qui lui a toujours dit Macky Sall, lui, avait toujours dit qu'il ne briguerait pas de 3e mandat, donc, même s'il y a eu des doutes lorsqu'il a repoussé la présidentielle. Donc, c'est un constat que certains font.
Alors, il y a 2 choses dans votre question. La question de la lutte contre la corruption, il y avait des grandes promesses en 2012. Il faut se rappeler, là encore, les attentes qui étaient énormes en 2012, après une fin de mandat d'Abdoulaye Wade et une tentative de coup de force pour un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Il y avait de vraies attentes en termes de transformation des modes de gouverner et des institutions, et notamment de la lutte contre la corruption. Et sur ce plan-là, on peut dire que les promesses n'ont pas réellement été tenues, puisqu'il y a quand même plusieurs scandales qui ont émaillé ces 2 mandats. Hein. Il y a eu une forme de gestion un peu parfois familiale du pouvoir. On a eu un frère qui était à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, un beau-frère qui a été ministre très important, donc qui rappelait des pratiques un peu comme sous l'ère Wade. Il y a eu le scandale de la gestion des fonds du Covid. Et quand la Cour des comptes a fait un rapport assez grave sur cette affaire, plusieurs ministres du gouvernement se sont pris vertement à la Cour des comptes. Donc on voit que sur ces sujets-là, quand même, il n'y a pas eu tant de progrès que ça.
Macky Sall s'est notamment rendu en Ukraine pendant son mandat, pour citer d'autres déplacements, pendant la dernière COP, il a demandé des financements pour aider l'Afrique à ne pas subir les effets du dérèglement climatique. Est-ce que sur la scène internationale, la voix du président sénégalais a porté, plus globalement, celle du Sénégal ?
Oui, ça on peut le dire, c'est un capital diplomatique et un soft power sénégalais qui précède ce président et qui lui survivra. Donc ce n'est pas lié forcément à la personne du président en exercice, hein. C'est vraiment l'État sénégalais qui a cette image positive à l'international par sa diplomatie, par son histoire, par ses hauts fonctionnaires qui sont très nombreux dans les institutions internationales. Donc ça, ça ne changera pas. La voix du Sénégal portera toujours sur le plan diplomatique.
D'accord, donc lui n'a pas apporté forcément plus de changements, on ne doit pas à Macky Sall une place plus importante du Sénégal dans les institutions mondiales.
C'est ce que ses partisans aiment à dire, que sa personnalité ou son charisme aurait joué, mais ce qu'on constate, c'est que le président précédent, Abdoulaye Wade, ou le président précédent, Abdou Diouf, ou le président encore précédent, Senghor, c'était à peu près la même chose. Donc il y a une forme de continuité, là, du prestige du Sénégal sur la scène africaine et internationale, qui, à mon sens, dépasse la question des personnes.
Étienne Smith, politiquement, est-ce que le parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République, ressort fragilisé de tout ce qu'il s'est passé en début d'année, de l'annonce du report de la présidentielle?
Alors indéniablement, ça a montré des divisions fortes au sein du parti présidentiel, puisqu'il y a eu ces débats sur la question même de la légitimité ou pas de la candidature de Amadou Ba, qui a profondément divisé le parti au pouvoir. Après, tout va dépendre des résultats du vote dimanche. En cas de victoire au premier ou au second tour, ou en cas de défaite, bien sûr, le destin du parti va être en jeu. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au-delà du parti présidentiel, l'APR, tous les partis au Sénégal, maintenant, quelque part, ont du mal à survivre à leur fondateur. Le PS n'est plus grand-chose depuis la fin de sa période au pouvoir. Le PDS de Abdoulaye Wade, là, on le voit lui aussi en phase d'éclatement, etc. Donc l'APR sans Macky Sall, on peut quand même supposer qu'il y a peu de chances que le parti reste un parti dominant, en cas de défaite électorale en tout cas, il y a des chances que le parti ne survive pas à son fondateur. Et ça, c'est un des échecs des partis au Sénégal à dépasser la figure finalement du fondateur.
Est-ce que ça pourrait être le même sort pour la coalition au pouvoir, Benobok Yassar ? Est-ce que c'est une coalition qui va pouvoir durer ?
Non, ça c'est un classique des élections au Sénégal. L'élection présidentielle rebat les cartes et en fonction de qui l'emporte, la coalition peut tout à fait voler en éclats. Ça c'est tout à fait prévisible. Et déjà, en fait, pendant les campagnes électorales, on voit tout un jeu de ralliement de figures politiques dans les deux sens, hein, de l'opposition vers le pouvoir ou du pouvoir vers l'opposition, qui sont un grand classique à la veille des élections au Sénégal.
Et alors, à quel point le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, se situe dans la continuité de Macky Sall ? Est-ce qu'il partage toutes ses visions ?
Alors c'est difficile à dire parce qu'il a été peu disert, il s'est peu prononcé sur la chose. Alors dans la campagne électorale, il incarne cette continuité avec les bilans de Macky Sall puisqu'il a été lui-même ministre et Premier ministre. Donc il est bien sûr dans cette continuité. Mais on sent qu'il y a une volonté de s'émanciper de certains aspects ou en tout cas de faire valoir une différence. Mais qui, la campagne ayant été tellement courte, n'a peut-être pas pu se manifester autant que le candidat l'aurait souhaité, je pense.
Et est-ce qu'on peut dire que globalement, Amadou Ba est l'héritier politique de Macky Sall ? Il y a eu des tensions entre les deux hommes. Pour certains, si Macky Sall a repoussé le scrutin présidentiel, c'est parce que Amadou Ba, justement, pour lui, n'était pas assez populaire. Il craignait sa défaite.
Ça, c'est ce qui est ressorti des antagonismes au sein du parti présidentiel. C'est qu'une partie de l'entourage du président de la République et des membres du parti APR ne faisait pas confiance à Amadou Ba pour porter cette continuité, etc.
Et alors, dernière question, Étienne Smith. Quel avenir désormais pour Macky Sall ? Est-ce qu'il va rester en politique ?
Alors, traditionnellement, les présidents sénégalais, après la fin de leur terme, quittent le Sénégal. Le président Senghor était venu en France, Abdou Diouf était venu en France et avait eu un poste d'importance à la francophonie. Et là, le président Sall a laissé entendre qu'il y avait une retraite qui se préparait peut-être au Maroc, ou surtout des fonctions au niveau international, puisqu'il y a des fonctions qui lui ont été proposées, notamment par la France. Donc, en général, il y a une carrière après la présidence pour le président sénégalais, mais en général, hors du Sénégal.
Merci beaucoup, Étienne Smith, d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux, membre du laboratoire LAM, Les Afriques dans le Monde. Merci aussi à nos confrères de France Bleu qui vous accueillaient ce soir dans leur studio à Bordeaux. Merci également à Hélène Avril à la réalisation et à Eleonore Krinik qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve dès lundi pour un nouveau décryptage et dans quelques secondes, vous retrouvez Romain Ozoui pour le débat. Réguler l'intelligence artificielle, est-ce limiter son développement ? C'est le sujet du jour.